Et pour l'heure, à 7h moins le quart, j'accueille un expert de l'industrie pharmaceutique au cabinet de conseil Roland Berger. Bonjour Patrick Bichler.
Bonjour.
On va parler avec vous de cette course au vaccin, course entre les laboratoires. Mais d'abord, la polémique qui remet cette question à la une. Sanofi commence par annoncer donner la priorité aux États-Unis pour son futur vaccin. Tollé ici, Sanofi, c'est français. Emmanuel Macron juge nécessaire que ce vaccin soit un bien public mondial. Extrait des lois des marchés, selon l'Élysée. Hier soir, le président de Sanofi assure que les vaccins seront accessibles pour tous. Voilà pour le résumé de la journée. Patrick Bichler, il s'est passé quoi hier ?
Je pense qu'il y a eu une interprétation de propos tenue par le président de Sanofi, Paul Hudson, qui visait surtout, je pense, à rappeler que il fallait que l'Europe se mette en ordre de bataille, tout comme l'ont fait les États-Unis, pour permettre non seulement la découverte, mais aussi la production le plus rapidement possible du vaccin.
Et rappelons ici que c'est de la science-fiction. Ce vaccin que tout le monde s'arrache pour l'instant, il n'existe pas. C'est une course contre la montre. J'ai même vu passer l'expression « bataille pharmaceutique du siècle ».
Alors je pense que c'est une bataille pharmaceutique vu l'ampleur et la gravité de cette pandémie. Effectivement, vous avez raison, c'est un peu de la science-fiction dans la mesure où le vaccin n'a pas encore démontré sa pleine efficacité et son innocuité, et qu'on ne sait pas si au moment où il arrivera sur le marché, le virus sera toujours présent, puisqu'il y a aussi un certain nombre d'hypothèses sur la durée de vie, si je puis dire, de ce virus et le fait qu'on ait besoin de vacciner massivement les populations au moment où les vaccins seront disponibles.
Oui, ça demande beaucoup de temps. Alors, d'ordinaire, ça demande des années de développer, de tester, de produire un vaccin. Et puis, d'ailleurs, on n'est pas sûr de trouver. Pourquoi ces effets d'annonce, Sanofi, hier, mais même tous ces labos qui vous disent être capables de fournir dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois ?
Alors, techniquement, on peut considérer que si les délais d'essais cliniques et les délais d'approbation, donc la validation par les autorités de santé, notamment l'EMA pour l'Europe ou la FDA pour les États-Unis, sont raccourcis, étant donné l'enjeu, j'allais dire, de ce vaccin, le délai de production, lui, il est relativement incompressible puisqu'on est souvent sur des mises en culture. Donc, quand on parle d'à peu près 18 mois de délai pour l'obtention d'un vaccin après validation de la première phase d'essais cliniques, on peut imaginer que ce délai soit raccourci selon les technologies employées, mais on est quand même dans cette fenêtre de tir, allez, on va dire de 6 à 18 mois pour être large. Et effectivement, ce qui est compliqué, c'est la production finalement, les phases plus précoces, à nouveau, essais cliniques et approbation du médicament pouvant être sans doute accélérées.
Il y a un pactole à récupérer. Je veux dire, au bout, c'est avec cette pandémie historique, le découvreur du vaccin, il découvre la poule aux œufs d'or.
Alors, il faut savoir ce qu'on entend par découvreur du vaccin. C'est un peu comme si on considérait dans une automobile que celui qui a inventé le moteur emporte la mise. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments, et vous l'avez vu peut-être s'agissant de Sanofi et de son accord avec Glaxo, chacun apporte sa contribution, que ce soit l'adjuvant, que ce soit l'antigène, donc qui permet de lutter contre cette fameuse protéine S du virus. Non, je pense pas qu'il y en ait un seul qui emporte le pactole. Le premier, j'ai envie de dire, à emporter le pactole, ça sera le patient, parce que je me place dans cette position-là et je suis surtout soucieux qu'on soit protégé le mieux possible. Pour revenir à votre question, le marché du vaccin aujourd'hui, c'est un marché qui pèse à peu près 35 milliards de dollars. Donc le marché actuel, on ne parle même pas de ce nouveau vaccin qui arriverait. Et ce marché de 35 milliards, il se répartit à un peu plus de 80% entre quatre grands acteurs, quatre grands laboratoires pharmaceutiques, dont Sanofi.
110 projets, 8 qui sont en phase d'essai clinique. L'industrie du vaccin, il faut aussi la resituer, ça représente 35 milliards de dollars pour 1200 milliards de bénéfices de cette industrie. Alors, comment ça marche en coulisses ? On va repositionner le vaccin aussi dans ce paysage. Comment ça marche en coulisses ? Hier matin, dans un premier temps, Sanofi renvoyait les dirigeants européens dos à dos. Les Américains sont efficaces en cette période, il faut que l'Union européenne soit aussi efficace en nous aidant à mettre à disposition très vite ce vaccin. Là, qu'est-ce qui se joue entre les États et les labos ? Qui est-ce qui met la pression sur qui ?
Je pense que c'est surtout une question d'harmoniser les législations, et de faire en sorte qu'on n'ait pas 27 voix, mais bien une seule. Et d'ailleurs, Bruxelles a répondu qu'ils étaient en train d'y travailler.
L'UE n'est pas assez coordonnée sur cette question.
Je pense qu'on peut être davantage coordonné, très clairement. Je réagis aussi à ce que vous disiez. Je pense que la recherche aujourd'hui, elle est quand même assumée essentiellement par l'industrie pharmaceutique elle-même, qui réinvestit une partie de son chiffre d'affaires. En général, on est entre 10 et 15% du chiffre d'affaires de cette industrie qui est réinvesti en recherche et développement. La première finalité de la pharmacie étant quand même d'innover. Donc l'aide, notamment l'aide financière des différents États, est surtout utile pour les petites sociétés. Les très gros laboratoires, ça peut aider, mais ça n'est pas déterminant.
Effectivement, ce sont les laboratoires privés qui financent pour la très grande part la recherche, le développement. Mais selon notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry, il y a aussi l'idée que les États couvrent le coût des pistes qui échouent et la responsabilité judiciaire s'il y avait des problèmes avec un vaccin pas forcément testé comme il le faudrait, puisque distribué rapidement. On essaye là quoi, d'assurer ses arrières aussi. On s'assure d'amortir l'investissement.
Alors sur la première partie, à savoir régler ce qui ne serait pas concluant, je suis pas certain que ce soit réellement au cœur des préoccupations de l'industrie pharmaceutique. En revanche, cette notion effectivement de responsabilité, elle peut avoir un coût relativement démentiel. On parlait tout à l'heure des États-Unis. Vous avez en tête, je pense, tous les procès retentissants sur des patients qui ont pris des médicaments qui leur ont causé un certain nombre de désagréments, des effets secondaires, de la même manière que la culture du procès américaine a un coût, un coût très important. Donc je peux comprendre qu'il y ait une préoccupation sur la notion de responsabilité et que cette responsabilité soit le plus possible, j'allais dire, partagée, et qu'on assume qu'effectivement, en développant rapidement, dans l'urgence, sur une pandémie qu'on ne connaissait pas...
Oui, non mais attendez, j'essaie de lire entre les lignes, c'est important. Ce que vous dites, c'est que les laboratoires, je parle au pluriel, il ne s'agit pas de parler que de Sanofi, disent en gros aux États, nous on veut bien produire vite, on veut bien distribuer plus vite que d'ordinaire, mais on ne veut pas de procès derrière.
C'est ça l'idée, mais à nouveau, je pense que la notion fondamentale, c'est de se dire, est-ce qu'on partage la responsabilité ou est-ce qu'on considère qu'il faut y avoir, eux contre nous, nous contre eux. Je pense que c'est justement pour éviter ce type de sentiment que l'industrie pharmaceutique dans son ensemble préconise qu'il y ait une relative coopération entre les États et les laboratoires pharmaceutiques.
Je posais la question de l'industrie du vaccin, 35 milliards de dollars sur 1 200 milliards de bénéfices de l'industrie. Pourquoi on parle que du vaccin et pas forcément autant des traitements, par exemple.
Alors, c'est 1200 milliards de chiffre d'affaires. Donc les 35 milliards sont à rapporter effectivement à ces 1200 milliards de chiffre d'affaires de l'industrie. On ne parle pas des traitements parce que les traitements, ne font pas disparaître la maladie. Là, on est en train de parler d'une solution qui éradiquerait réellement le virus, là où tout le reste n'a finalement qu'un rôle palliatif, si je puis dire.
Un dernier mot. Emmanuel Macron juge nécessaire que ce vaccin soit un bien public mondial extrait des lois du marché. Ça, c'est la phrase citée par l'Élysée. Ça vous inspire quoi ?
Ben, ça m'inspire que effectivement on est sur la prise en charge d'une maladie qui touche plus de la moitié de la population. On a bien vu sur ces dernières semaines, en le vivant dans le confinement les uns les autres, qu'on est face à un événement d'une ampleur jamais égalée. Je peux comprendre qu'il y ait une nécessité d'une certaine générosité ou de la mise à disposition du public de ce vaccin. C'est un peu comme le génome humain qui n'est pas brevetable parce qu'il est considéré comme un bien public.
Ce vaccin, il sera brevetable, cela dit.
Ce qui sera brevetable, c'est des composantes, si j'ose dire, du vaccin. Donc, ce que vous protégez sur un vaccin, c'est aussi bien la découverte de ce vaccin que les technologies pour le produire, que le matériel qui sert à l'injecter, etc.
On brevette les ingrédients de la recette, mais pas le plat au final.
On pourrait dire ça comme ça, oui.
Voilà, on va le dire comme ça alors. Merci Patrick Bichler, merci beaucoup.
Expert de l'industrie
pharmaceutique au cabinet de conseil Roland Berger, en direct ce matin sur Europe 1 pour essayer d'y voir plus clair dans cette affaire qui a fait la polémique hier et qui semble se clore ce matin. 39-21 si vous souhaitez réagir, il est 6h55.